There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2013, et c'est l'épisode numéro 109. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets. J'en perds mon latin et mon français. C'est l'épisode numéro 109, nous sommes en avril 2013. Et je suis Patrick Béja, comme toujours, accompagné de formidables chroniqueurs invités qui vont pouvoir vous dire des choses bien plus intelligentes que moi, puisqu'ils sont, eux, de vrais journalistes, dont Florence, qu'on entend taper à son clavier. Comment vas-tu, Florence ?
Mais très bien, bonsoir.
Florence qui officie sur Gizmodo France pendant la journée et pendant la nuit quand on enregistre, elle vient sur le Rendez-vous Tech. Tu vas bien ?
Très bien, c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Deuxième présence pour toi. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir combattu les caprices de Windows et de ses paramètres son pour être avec nous.
Je confirme.
L'autre caution journalistique de cette émission qui va me permettre de dire des bêtises et d'être rattrapé, c'est Cédric Ingrand qui lui n'en est plus à sa deuxième apparition, mais on les compte même plus. Comment vas-tu, Cédric ?
Ça va très bien, Patrick. C'est rare que je fasse office de caution journalistique, mais si ça t'arrange, moi, tu sais, je fais ce qu'on me demande.
Non, mais en fait, c'est surtout par rapport à moi, tu vois.
Oui, non, je comprends.
Quand on compare. Forcément, non, c'est pas pour dire que. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, Cédric. Le bébé va bien, tout se passe bien.
Le bébé va remarquablement bien. C'est un bébé de 5 mois qui va bien comme s'il avait un an.
D'accord.
Donc voilà.
Donc il est en avance sur tout. C'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement.
Exactement. Je comptais attendre 1 ou 2 ans avant de lui acheter un iPad. Et je pense que non, pour son anniversaire en novembre prochain, il va falloir que je fasse des choses parce que c'est terrifiant. Enfin, toutes choses égales par ailleurs. Hein, et en arrêtant de plaisanter 2 minutes, c'est terrifiant de voir à quel point les bébés sont attirés par les écrans. Je parle même pas de la télé parce que là, forcément, c'est Disneyland. Mais l'écran d'un smartphone, etc. C'est terrifiant parce que quand j'essaie de prendre des photos, et c'est le premier, donc si tu veux, il y a déjà forcément 12 000 photos de ce garçon.
Normal.
Je pense que le deuxième, il y aura 200 photos et le troisième, il y aura 20 photos. Mais c'est impossible de faire en sorte qu'il me regarde moi. Il regarde le smartphone que j'ai dans la main. Il y a une espèce de fascination pour les objets, et quand on se Skype, hein, parce que je Skype mon bébé, quand je suis loin ou quand sa maman l'emmène en vacances, tout ça, il y a une attirance immédiate pour les écrans. Alors il n'y a pas encore, si tu
Alors
veux...
Alors toi tu te dis que c'est toi qu'il veut voir dans Skype, en fait non, c'est l'écran qu'il veut toucher, quoi.
Je ne sais pas, je me dis que c'est il reconnaît son papa et que donc voilà et son visage s'éclaire. Je mettrai pas ma main à couper qu'il y a chez un bébé le degré d'abstraction suffisant pour arriver à dire c'est mon père, il est dans un écran. Tu sais, comme les bébés à qui on mettait le téléphone à l'oreille avant. Alors on avait tendance à essayer de lire des réactions, mais bon, je vais arrêter de parler de pédiatrie. car ce n'est pas pour ça que nous sommes là ce soir.
D'accord. Mais moi, j'allais parler de ma petite nièce qui est également tout à fait fascinée par mon iPad. Ce qui m'embarrasse un petit peu parce que moi, je veux bien l'utiliser, mon iPad. Mais non, il le lui faut. Mais bon, bref. Effectivement, non, on n'est pas sur le rendez-vous pédiatrie.
C'est intéressant parce que ça pose plein de questions. Je regarde, tu vois, dans les rayonnages de la bibliothèque avec ma collection de DVD. Je me dis, lui, déjà, un DVD, je pense qu'il saura ce que c'est, mais de manière extrêmement lointaine. On sera forcé de lui raconter. Tu sais, il y avait des... Ou alors il dira, c'est quoi le truc dans la pochette bleue? Ah, ça, c'est un Blu-ray, c'est très récent.
Mais il y avait effectivement un témoignage de, dans une émission anglophone que j'écoute, ça devait être This Week in Tech ou Tech News Today, d'un jeune papa qui disait, en parlant à sa fille qui était, qui avait peut-être 4-5 ans, qu'il voulait regarder un programme à la télé. Enfin, ils étaient en train de regarder un programme. Et sa fille lui disait, ah non, maintenant je veux regarder l'autre truc. Et il lui disait, non, là c'est différent, tu vois, c'est pas Netflix, c'est pas, pour revenir un petit peu à la tech, c'est pas Netflix, c'est pas Hulu, c'est pas ces trucs-là. Là, c'est juste la télé, il y a ce qui passe et c'est tout. Et la fille le regarde d'un air complètement médusé, tu sais, mais...
C'est ça, espèce de dinosaure, quoi. Enfin,
de quoi parle... Non, mais elle comprenait même pas. De quoi parles-tu ? La petite ne comprenait même pas, c'est ça.
Oui, ça me rappelle, c'est quand, moi, quand, au même âge, ma maman me disait, alors tu vois, quand ton papa était petit... Et quand t'as 5 ans, ton papa, il a pas pu être petit, ça ne veut rien dire, tu vois. Et c'est pareil, c'est des générations qui connaîtront pas autre chose que les interfaces tactiles et les médias dématérialisés. C'est, bande de petits cons, va. Non, c'est vrai, c'est trop facile. Je me faisais la réflexion
cette semaine.
Je sais
pas qui tape sur son clavier, mais on l'entend.
C'est pas moi, c'est Florence. Mais je veux pas balancer.
Je ne touche plus.
Je me faisais la réflexion parce que je joue beaucoup en ce moment avec des Raspberry Pi, tu sais, le petit ordinateur à 30€, là.
Tout à fait.
Et j'en ai deux et je fais des choses merveilleuses avec et je me dis pourquoi j'ai pas eu ça quand j'avais 12 ans, j'aurais fait hacker quoi. Et donc voilà, donc on se plaint toujours du fait que les générations montantes ont plus de chances que les descendantes. Bon, on a eu d'autres chances nous. Hein.
Oui, non, mais moi je ne me plains. Oh, bah moi tu vois, moi je me plains jamais, je suis content de tout. Même les trucs horribles, je me dis oh mais ça va, genre 6 pas, tout ça, c'est bon, c'est pas grave. ça va Florence, on clôt la page pédiatrie qui ne t'intéresse peut-être pas forcément autant.
Mais c'est passionnant, au contraire, continuez, je vous en prie.
ce dont j'aimerais parler plus tôt, c'est des trois infos à retenir de cet épisode. La première, on va vous parler, chers auditeurs, du crowdsourcing de l'enquête sur les attentats de Boston. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attentats meurtriers à Boston il y a une semaine environ de ça, et qu'il y a un angle tout à fait tech à propos de cet incident malheureux, qui est même pas un incident d'ailleurs, en ce sens que c'est la première fois où on a eu une vraie mise en commun des connaissances et des efforts du net, pas entier, mais enfin de certaines communautés sur Internet, pour essayer de trouver des indices et, si possible, les coupables de cet attentat. Il y a eu deux communautés en particulier, l'une sur Reddit et l'autre sur 4chan. Disons que Reddit a vraiment été au centre de l'enquête, entre guillemets, et ce sont de grosses guillemets. Et ils ont initié une nouvelle communauté pour essayer d'analyser, si vous n'êtes pas au courant, d'analyser toutes les photos, toutes les vidéos qu'ils recevaient et qui étaient publiques, avec cette idée que, évidemment, si on crowdsource la chose, si on met en commun les efforts de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes, ça aiderait la police à identifier des indices importants. Alors, évidemment, ça pose des questions énormes. Et bon, avant de passer à la question presque philosophique, est-ce que vous, ça vous paraît comme ça, de but en blanc, être une bonne idée ? Peut-être poser la question à Florence. Crowdsourcer une enquête policière ?
Bah, sur le principe, en l'occurrence, enfin, c'était pas idiot dans le sens où il y avait énormément de personnes sur cette manifestation avec des téléphones qui étaient connectés, donc il y avait effectivement des possibilités de trouver des indices, quoi. Surtout en croisant justement les sources de différentes personnes. Après, au final, ça a été plus problématique qu'autre chose, donc la question reste entière.
Ouais, c'est-à-dire que on a effectivement eu des. Il y a eu une réponse d'ailleurs de Reddit intéressante à ce sujet qui a été faite il y a quelques heures, parce que ce qu'ils voulaient absolument éviter, c'est-à-dire la chasse aux sorcières, malheureusement. Ouais, vas-y Florence, tu veux.
Non, mais c'est tout à fait ça. Il y a eu déjà des cas où effectivement des personnes étaient complètement stigmatisées alors qu'elles n'avaient rien à voir dans l'histoire, simplement parce que. Dans l'inconscient collectif, les gens se sont mis à se monter la tête et à se dire que c'était telle ou telle personne qui n'avait absolument rien à voir dans cette histoire. Donc c'est vrai que ça peut être même dangereux.
Mais alors, ce qui est terrible, c'est que quand on voit les instructions avec lesquelles ont été montés ce groupe sur Reddit, ça a été fait avec les meilleures intentions du monde et surtout
bien
avec
sûr.
les plus grands les plus grandes précautions, tant, si tant est qu'on puisse prendre des précautions dans ce genre de, d'environnement, les plus grandes précautions, c'est-à-dire que les initiateurs de ce groupe disaient « Attention, nous ne sommes pas là pour donner des informations des informations privées des gens, nous ne sommes pas là pour mener l'enquête nous-mêmes. Si on trouve des choses, on ne les interprète pas, on les transmet uniquement aux services de police et au FBI. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment, c'était pas quelque chose qui était fait, je parlais de 4chan par exemple, que ce soit 4chan ou Anonymous ou ce genre d'organisations, sont parfois peut-être un petit peu plus en marge des autorités et ont tendance à prendre la justice dans leurs mains. Là, en tout cas sur Reddit, c'était quelque chose qui était vraiment fait pour suppléer la police et surtout remettre les indices potentiels qu'ils trouvaient à la police pour que la police fasse le travail de police. Est-ce que ça veut dire que c'est pas possible, Cédric, d'avoir quelque chose qui ne dérive pas ? Parce qu'au final, il y a eu cet aspect chasse aux sorcières. Ils n'ont pas vraiment trouvé les personnes qui se sont avérées être responsables. Ils ont été mentionnés, mais enfin, ils ont mentionné tellement de gens.
Ils en ont trouvé d'autres.
Oui, c'est ça le pire.
C'est pour ça que c'est drôle. Bon, on a tous vu la semaine dernière les images qui tombaient partout en disant « Regardez, ça y est, on les a trouvés. » Et où on voyait de fait deux types dans différentes photos, à différentes positions. Et le problème, évidemment, c'est que tu regardes une foule de centaines, voire de milliers personne, qu'est-ce qui peut te faire dire c'est lui ou c'est pas lui? Alors au début c'était des trucs du genre bah là il a un sac, il a un gros sac et après on
les
voit
casquettes.
Plus son sac, les cas, alors il a une casquette,
deux casquettes, regardez, de marque.
Tout le monde regarde la course, lui regarde ailleurs, c'est un peu léger hein, comme présomption de culpabilité. Mais et en fait je pense que à un moment, il y a une espèce de chose qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que tu vois des gens dans une photo, tu les retrouves dans une autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'inverse de l'avion sur le Pentagone où on dit, je vois pas d'avion, donc il n'y en avait pas. Là, c'est je vois ces gens, donc ils sont forcément coupables. Je pense qu'il y a, il y a à un moment un truc qui s'auto-alimente intellectuellement. Et bon, il faut dire quand même que le problème aussi, c'est que ça a été repris par, c'est qui? Par le New York Post, qui a mis la photo en une. Le lendemain, a mis la photo en une en disant voilà, mais c'est vrai que les policiers étaient intéressés, disaient nous on aimerait bien parler à ces gens là bon on sait pas si c'est eux ou pas eux. Il a fallu que l'un d'entre eux se présente à la police en disant bonjour monsieur, je ne suis pas un terroriste, je n'ai tué personne, voilà, et le sac je l'ai, il est là. Oui, mais je pense que c'est aussi une sorte d'ignorance. Comment dire ? C'est-à-dire que tous les gens qui ont travaillé sur les photos, je pense, même inconsciemment, partaient du postulat de départ qu'ils allaient y trouver quelque chose. Donc c'est en gros voilà, si t'étais pas dans la photo, t'existais pas. Mais c'est pas.
Mais alors est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas marcher un truc comme ça ?
Ça peut marcher, ça aurait pu marcher. Hein. Ouais. Ça aurait pu parfaitement marcher, mais le problème évidemment, c'est que ce crowdsourcing, tu sais pas qui signe les informations et qui signe l'analyse. Quand tu mets 200 policiers sur la même chose, eux ils connaissent les règles, ils savent ce qui marche et ce qui marche pas. En plus, ils se voient physiquement, c'est plus facile de discuter. De tiens, le mec avec le survêt bleu là, tu penses que bah non, regarde, il est là-bas, il a son sac. Ah ok, super. Bref, c'est plus facile d'éviter les erreurs que de faire vraiment du crowdsourcing entièrement dématérialisé, quoi. Mais non, de fait, moi je suis d'accord sur le fait que ça partait avec les meilleures intentions. Bon, après ça a complètement dérapé sur 4chan, les mecs qui mettaient les photos en disant si vous voulez trouver, tuez-les, enfin ouais. Bon, donc évidemment il y a des dangers, enfin tu vois, ça finit toujours un peu en Burn the Witch comme dans les Monty Python, quoi.
Ceci dit, la police était quand même catégorique aujourd'hui. Le commissaire de Boston s'est exprimé, il me semble, là-dessus, en disant qu'en gros, les informations étaient globalement erronées et que ça a fait que compliquer l'enquête au final. Il fallait gérer la situation avec les gens, enfin c'était compliqué. Ils ont même diffusé les photos des deux suspects pour arrêter justement cette chasse aux sorcières qui était sur les deux réseaux, quoi.
Oui, c'est ce qu'il disait en partie la publication des photos des deux dont ils étaient à peu près certains que c'était les coupables a été effectuée pour calmer un petit peu le jeu ailleurs. Donc, disons que si on s'écarte un petit peu de cette affaire spécifiquement, où visiblement ça n'a pas marché, comme tu le disais Cédric, ça aurait pu. Imaginons qu'il y ait un autre cas similaire, et à vrai dire, la prochaine fois qu'il y aura un incident de ce type, il y a fort à parier qu'on aura le même problème. Est-ce qu'on se dit... ça serait bien que le crowdsourcing se répète, ou est-ce que il vaut mieux éviter la chose et laisser la police faire son travail toute seule?
C'est les shadocks. Plus on échoue et plus on a de chances de réussir. Il y a un moment où ça va tomber juste. Tu vois ce que je veux dire? comme les 1000 chimpanzés qui, en tapant pendant 1000 ans, vont finir par taper Shakespeare. Ouais. Voilà. Mais c'est évidemment pas une garantie de succès. Ou alors il faudrait.
Moi, tu vois. Mais par au-delà, exemple, au-delà de la garantie de succès, ça, je crois qu'on a compris. Et d'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas retrouvé les. Enfin, je sais pas, mais heureusement qu'on les a pas retrouvés parce que du coup, ça aurait été la prochaine fois la sorte de boîte magique d'où on sort un nom et on est certain que c'est lui. Mais oui, ça aurait pu marcher, ça aurait pu ne pas marcher. La question, c'est est-ce que moralement, est-ce que au niveau sociétal et est-ce que au niveau policier même, est-ce que il faudrait souhaiter que au prochain incident, on ait également un crowdsourcing de l'enquête.
Le truc, c'est, ça pourrait fonctionner si, par exemple, des enquêteurs faisaient un appel aux, tu vois. Hein. Alors, ils peuvent faire un appel aux internautes en disant, si vous avez des photos prises le jour où, machin, vous voyez, ça c'est super, mais on les voit mal se retourner vers le web en disant, voilà la masse documentaire qu'on a amassée. D'abord, vous pouvez rajouter des choses si vous en avez, et puis aidez-nous à trouver. Tu sais, c'est Where's Waldo, quoi. Aidez-nous à trouver le mec avec le chapeau rouge, quoi. je vois pas. Comment ça pourrait se passer comme ça? Parce qu'en plus, évidemment, les enquêteurs peuvent pas dire où ils en sont de l'enquête. Enfin, je pense que voilà, il y a mille raisons pour lesquelles ils vont pas. Tu vois, c'est pas opération porte ouverte, quoi. Ouais. Donc, non, tu vois, c'est vrai.
C'est puis le nombre de données. Il y a un nombre de données absolument incalculable avec les smartphones et autres. À y trier, ça prend un temps fou.
Mais oui, mais c'est justement pour ça que le crowdsourcing pourrait avoir un intérêt. Parce que même une équipe de 50 flics entraînés ne peut pas avoir, enfin, n'a pas autant d'yeux que l'Internet.
Une communauté, quoi, bien sûr. Ouais. Mais avec les risques que ça comporte.
Vous allez sur Amazon, hein, sur Mechanical Turk, hein, tu sais, ce truc qui te permet de faire traiter des choses par des personnes humaines, où là, tu peux de fait dumper 20 000 photos qui seront distribuées entre 3 000 personnes et dire « trouvez-moi le mec qui a un chapeau rouge dans cette photo ». Voilà.
Mais peut-être que
faire un appel public au peuple, non, ça marche pas comme ça, ça peut pas marcher comme ça.
Peut-être qu'effectivement, avec une enquête qui soit vraiment dirigée et guidée par des services de police compétents, ça pourrait fonctionner, mais...
Mais c'est très compliqué parce que tu fais un appel au peuple, tu fais pas un appel à des gens définis. Donc donc si tu veux, moi si je suis criminel, je vais prendre part à la recherche et je vais dire c'est lui. Ouais. C'est lui, j'en suis.
Bah d'ailleurs, c'était l'une des choses qu'avaient fait remarquer les gens sur Reddit, c'était que ça se trouve le criminel, enfin le responsable faisait partie de Reddit et essayait de les aiguiller dans une mauvaise direction. D'ailleurs, à ce propos, une des choses les plus stupéfiantes à propos du véritable coupable, des véritables coupables, l'un d'entre eux avait tweeté après l'attentat, avait continué à tweeter des choses complètement anodines. C'était un petit peu glaçant, cette réalisation. Mais... Dernière remarque tech sur le sujet. Visiblement, la reconnaissance faciale n'a donné aucun résultat, alors que les suspects, puisqu'ils sont, bon, on dit coupables, mais ils sont encore suspects, les suspects étaient dans les bases de données des services de police, et malgré les centaines et les milliers de clichés et de clips vidéo, ils n'ont pas été trouvés par les systèmes de reconnaissance faciale.
Quand t'as des lunettes noires et une casquette, ça aide pas beaucoup. Hein.
Oui, peut-être, mais du coup, est-ce que ça veut dire que la reconnaissance faciale ne sert à rien?
Non, mais la reconnaissance faciale sur des immenses clichés ou sur des larges plans de caméra, faut d'abord qu'on passe tout en caméra 4K, faut que nos smartphones fassent du 32 millions de pixels, enfin tu vois ce que je veux dire.
Donc il faut améliorer nos systèmes de surveillance plutôt, c'est ça que ça veut dire.
Je pense que...
Cédric un grand l'a dit.
Mais non, je pense que de toute façon c'est le sens de l'histoire.
Ouais.
C'est-à-dire que voilà, sans en faire plus, faut dans ces conditions-là juste en faire mieux, parce qu'évidemment, tout à coup, si la caméra du coin de la rue, elle sort des clichés de 32 millions de pixels, en live, ça a pas énormément d'intérêt. Après, pour arriver à retrouver des gens, etc. Mais la reconnaissance faciale, attention, il y a deux reconnaissances faciales. Il y a tu te présentes face à une caméra qui te cherche parmi, je dis une bêtise, les 60 personnes qui ont le droit de passer la porte de ton bureau, ça c'est facile. Reconnaissance faciale qui part d'une base de données de millions de personnes pour chercher au hasard dans des millions de clichés, c'est totalement autre chose.
Je comprends pas, moi je vois dans toutes les séries, dans tous les films, ça fait tout et puis ça trouve en 3-4 minutes. On nous mentirait. Je suis outré. Autre sujet sur lequel, bon, c'est pas qu'on nous ment, mais il y a un changement qui risque d'être opéré, on va dire intéressant. Je sais pas si c'est encore des rumeurs à ce niveau, mais on entend de plus en plus parler de, du fameux rapport Lescure, sur la... Alors, c'est le rapport sur quoi? Sur l'exception culturelle? Sur... je sais même plus, sur comment aider les gens qui font de la production culturelle alors que l'internet complique les choses.
C'est le, c'est un nouveau rapport sur le, sur la numérisation des produits culturels. On
voilà.
va dire ça.
On va dire voilà. ça comme ça. Alors il semblerait que l'une des mesures préconisées par ce rapport soit la suppression de la, de la rémunération pour copie privée. Alors ne sautez pas de joie, hein, c'est pas terminé. Pour ceux qui ne le savent pas,
attendez la fin de la phrase.
C'est ça exactement. La rémunération pour copie privée, c'est cette taxe supplémentaire qu'on impose à tous les appareils, j'allais dire les médias, mais tous les appareils de stockage, qu'ils soient effectivement des CD ou des clés USB ou des disques durs, ou même d'autres types d'appareils comme des iPads ou des lecteurs MP3 et ce genre de choses.
Tout ce qui a de la mémoire.
Tout ce qui a de la mémoire, en gros. Donc, la suppression de cette rémunération pour la remplacer par une taxe globale sur l'industrie numérique en général. Et là, je suis un petit peu... Enfin, moi, je suis prêt à écouter toutes les opinions, mais là, je suis pour le moins interloqué, parce que, certes, l'industrie de l'informatique, dans son ensemble, on peut même pas dire vraiment profite, mais fait partie de l'écosystème qui permet la numérisation des données culturelles, enfin des productions culturelles. Mais aller jusqu'à taxer l'ensemble l'industrie numérique, enfin de l'industrie de l'informatique, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement quelle forme ça prendrait, mais on peut imaginer qu'il y ait une taxe sur le chiffre d'affaires de Apple, Samsung, Dell, etc., qui soit utilisée pour pour soutenir la création culturelle en France. Alors, autant je ne suis pas contre, sur le principe, pourquoi pas soutenir la création, les productions culturelles en France, sachant qu'il y a déjà des subventions et des aides qui sont très nombreuses pour ça, mais à ce moment que ça sorte du budget général de l'État, je comprends pas pourquoi il faut faire directement une taxe sur un certain secteur d'activité. À ce moment, pourquoi pas l'électricité, pourquoi pas bon tous ces arguments qu'on entend régulièrement. Moi je comprends pas bien. Florence, est-ce que tu comprends mieux cette intention ou cette rumeur, c'est encore une rumeur, hein, faut être précis.
Oui, non, c'est à l'état de rumeur. Ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont favorables. L'idée est pas... Pourquoi pas? Enfin, c'est des gens qui ont déjà fonctionné. Après, à terme, c'est quand même une perte d'argent pour beaucoup de monde. Au niveau des... C'est une mesure qui est tellement complexe à mettre en place. C'est surtout ça, c'est des démarches administratives qui vont être... Est-ce que le consommateur sera gagnant ou perdant aussi? Il y a énormément de problématiques qui incombent à tout ça, sachant que même Audrey Filippetti est pour ce genre de mesures, donc on peut se poser la question. Il me semble que c'est en Espagne qu'ils ont tenté quelque chose de similaire et qu'au final, ils ont perdu énormément d'argent. Donc c'est vraiment un risque. C'est un risque.
Ils ont perdu de l'argent comment? Tu veux dire que les...
Vis-à-vis des industries, j'ai oui. plus les chiffres en tête. Si c'est ça, c'est en...
Disons que ça fait monter les prix des produits au final, donc les consommateurs...
Du coup, moi, je me mets du point de vue du consommateur. C'est des produits qui sont déjà très chers, donc c'est pas forcément une bonne chose non plus. Après, l'intention est louable, en soi. Au prorata du chiffre d'affaires, pourquoi pas
Moi, ce qui me dérange dans la démarche, c'est... Enfin, le lien entre... Autant on pouvait se dire, un CD, ça sert à graver... Un CD vierge, ça sert à graver des morceaux de musique. À l'époque, c'était le cas en partie. Donc, peut-être mettre un petit peu de... Quelques centimes en plus sur le CD. OK, je pouvais voir le lien. Autant se dire, taxer l'ensemble de l'industrie de l'informatique pour au bénéfice des producteurs de contenu, je... Le lien est tellement plus ténu que ça me dérange. Même le principe me dérange, en fait. Je suis seul, Cédric, ou...
Non, es... je t'écoute, mais enfin, c'est une très...
Non, je veux dire, je suis seul à penser ça, ou tu...
Non, pas du tout. Mais on connaît pas d'abord les détails de ce que préconise le rapport.
C'est sûr.
Et puis d'ailleurs, ce n'est qu'un rapport. Faut encore que, voilà. La taxe sur la copie privée, c'est quelque chose qui date de 85. C'est pas nouveau. Au début, ça touchait que, souvenez-vous, les bandes magnétiques, qui de fait, là, c'était des supports vierges, qui étaient faits pour reproduire du contenu. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup
c'est
de discussions sur
la... J'avais l'impression que ça avait été 85. Créé avec les, avec
la,
la,
loi langue.
Non, non, non.
Les cassettes, la loi langue, ouais.
Les cassettes et les VHS, etc. Mais tu vois, quand t'achetais une cassette vierge ou un VHS, une VHS vierge, il n'y avait pas beaucoup de débat à savoir ce que t'allais stocker dessus. Une cassette, t'allais mettre de la musique et une VHS. Alors, tu pouvais aussi stocker tes propres œuvres, mais ça devait être un usage minoritaire. Aujourd'hui, c'est vrai, enfin, même pas aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on a ces débats sur, oui, mais alors attendez, parce que par exemple, les ordinateurs de bureau des entreprises, eux, sont pas taxés. Parce qu'ils sont pas supposés être là pour copier du contenu protégé par le droit d'auteur. Mais surtout, ce que préconiserait le rapport, c'est-à-dire d'oublier la taxe sur la copie privée, ça veut dire aussi d'oublier le droit à la copie privée. Aujourd'hui, ça s'appelle d'ailleurs pas une taxe sur la copie privée, ça s'appelle une redevance à l'exception de copie privée. L'exception de copie privée étant une exception au code de la propriété intellectuelle qui dit que tu as le droit, de fait, de recopier des contenus culturels numérisés pour ton usage ou celui, on dit quoi, le cercle de famille et tes amis, en gros. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de droit à la copie privée. En même temps, ça simplifierait les choses parce que d'un coup, il n'y aurait plus de débat. non, mais c'est vrai. Vaut mieux une grosse injustice qu'un petit désordre.
Bah, disons que si c'est remplacé par une taxe globale qui a finalement la même utilité, on peut se demander si le droit disparaît ou non. Moi, je dirais que
en fait,
c'est discutable, quoi.
La raison pour laquelle les industries culturelles ils y vont un peu à reculons, parce que aujourd'hui la redevance sur la copie privée, c'est quelque chose qui est négocié par une commission ad hoc qui rassemble d'un côté des ayants droit et de l'autre côté, on va dire, les fabricants d'électronique grand public.
Enfin, ils ont claqué la porte il y a quelques mois quand même.
Qui ont de manière répétée avec les organisations de consommateurs claqué la porte en disant attendez, on est minoritaire, donc en gros vous nous faites passer absolument tout ce que vous voulez en disant attendez, tout ça est adopté par une commission paritaire, genre on est tous d'accord. Non, on n'est pas tous d'accord. Il y a eu des recours devant je ne sais plus quelle juridiction. Bref, il y a une sorte de danger juridique face à cette commission qui pourrait voir toutes ces décisions réduites à néant. Et tout à coup, ce serait la fin de la redevance, mais il y aura encore le droit à la copie privée. Ce serait ennuyeux. Donc si l'État reprend ça à son compte et dit on va juste faire une taxe nouvelle sur on va dire le chiffre d'affaires des industries du numérique, c'est dangereux, c'est agréable pour les ayants droit, parce qu'évidemment tout à coup il y a plus de débat sur combien on prélève, etc. C'est l'État qui s'en charge, mais il y a un danger, c'est l'histoire de la vignette automobile. La vignette automobile au début c'était fait pour financer la retraite des vieux. Pour financer le minimum retraite. Évidemment, à un moment, c'est arrivé dans le budget général de l'État, et puis voilà, après, l'État fait ce qu'il veut avec son budget. Ouais. Donc le danger, il est là aussi, c'est-à-dire que les industries culturelles veulent bien une taxe, mais qui soit nommément affectée à leur bénéfice. Et c'est de l'argent quand même. Hein. En 2012, la taxe sur la copie privée, c'était presque 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, c'est plus c'est du ça. Tiers du chiffre d'affaires de la musique en France.
Oui. Non,
mais à un moment, il faut avoir un peu de recul et se remettre. Alors, j'espère que Pascal Nègre n'écoute pas cette émission. Pascal,
tu sais, il y a peu de chance.
Tu sais que je t'aime, ou qu'au moins on s'amuse beaucoup ensemble. Mais le chiffre d'affaires de la musique en France, c'est le chiffre d'affaires d'un magasin Carrefour en grande banlieue à Toulouse. Non, mais je déconne pas. C'est 600 millions, quoi. Ou c'était 600 millions, je crois que ça a encore baissé depuis. Oui. Donc ça fait quand même beaucoup de. Alors c'est important. Et puis il y a pas que la musique.
Non mais du coup voilà. Non mais Cédric, tu es génial.
Arrête.
Tu as trouvé la solution. Taxons les carrefours de grande banlieue de Toulouse.
Pourquoi faire?
Mais pour financer la finalement.
Oui, mais bien sûr, taxons la distribution. T'as vu la FNAC? Dans quelle santé est la FNAC aujourd'hui? Tu veux faire une taxe sur la FNAC? Oui, je pense, oui.
La FNAC qui, visiblement, est en vente, le groupe PPR essaye de la refourguer depuis des années
ils
ne trouvent pas d'argent.
Donc, ils l'offrent à leurs actionnaires, là. non, mais vraiment. C'est-à-dire que si t'as des actions Kering, donc le nouveau nom de PPR, on va t'offrir des actions FNAC en plus. Et puis,
c'est gentil.
Mais non, il y a un autre danger qui est technologique, celui-là. C'est que jusque-là, la taxe, elle était basée sur la capacité de stockage. Alors ça a évolué un peu parce qu'évidemment, tu penses bien que à l'époque, le premier iPod, il faisait 5 gigas. Donc si on taxait aujourd'hui au prix du giga de l'iPod, ça ferait 3 fois le prix de l'iPod. Ce serait un peu gênant.
Bah, sur un iPad, on est quand même à plusieurs dizaines d'euros. Oh, hein, quand même.
Non, absolument, c'est beaucoup. Mmh. Et c'est pour ça les gens qui disent c'est plus cher qu'aux États-Unis. Bah oui. Alors pendant longtemps, Apple a pas payé. Il paraît que là, Apple est en train de régler sa note. Oui. Mais c'est quand même des dizaines de millions d'euros pour la France. Mais le problème, c'est qu'il y a un mouvement technologique qui fait que, avec la généralisation des réseaux haut débit et très haut débit, le stockage local a de moins en moins d'intérêt. Ça veut dire que tu vas à terme acheter des machines dans lesquelles il y aura de moins en moins de stockage local parce que tu seras en 4G sur ton mobile et en fibre à la maison. Peu importe, tu auras un teraoctet chez Dropbox et puis fais tout.
Et ce stockage, il sera aux États-Unis, donc non soumis à la taxe.
En tout cas, il sera peu importe où en fait. Ouais. Et donc de fait, voilà, d'un côté, tu pourrais de fait consommer toujours autant de stockage qu'avant, mais ça passerait au travers du râteau de la taxe. Mmh. Donc je pense que là aussi, les ayants droit disent, attendez, il faut qu'on trouve des solutions un peu pérennes pour pas être forcé. Alors il y a quelques mois, on disait, oui, il faut taxer le cloud. Ouais, oui, bien sûr. ça va être simple, tiens, ça va être facile. Il y avait des vrais problèmes de faisabilité. Donc est-ce que c'est souhaitable ou pas? J'avoue que je sais pas, oui. Mais je pense que c'est logique qu'on en finisse comme ça. Mais le danger pour tous les gens qui vivent de la rémunération pour la copie privée, c'est quand même que tout ça retombe directement dans le budget général de l'État et qu'on leur dise bon, vous êtes gentils les chouchous, ça va, vous avez vu le déficit? Non, vraiment, vous avez vu le déficit? Même si bon, 200 millions, c'est pas la mer à boire.
Oui. Ouais, bon, moi je suis pas hyper hyper enthousiasmé par cette solution, mais de toute façon, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. On verra ce que ça donne d'ici quelques temps.
C'est le 6 mai, je crois, la sortie du rapport justement.
Voilà, 2 semaines à peine à attendre pour savoir de quoi.
Vous remarquez que sur ces choses-là, d'ailleurs, c'est bête parce que la taxe sur la copie privée, c'est l'un des rares trucs qui fonctionnait au moins dans le fonctionnement au quotidien, à comparer à Adopi, par exemple, tu vois.
Ah oui, ça c'est sûr que ça rapporte des sous, oui, effectivement.
2 ans et demi de débat où on serait cru dans le débat sur le mariage pour tous, pour accoucher d'un truc qui, bon, finalement, oui. Voilà, dont plus personne ne veut la paternité, d'ailleurs, aujourd'hui, tant qu'on parle de mariage. Donc voilà, le problème, c'est qu'ils doivent trouver des solutions parce que voilà, il y a quand même une industrie culturelle en France qui a besoin de vivre correctement, mais il faut que ce soit des solutions pérennes et faisables, pas des plans sur la comète sur on va taxer Dropbox et Amazon, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
J'ai vu aujourd'hui un autre projet de taxe, on aura évacué ça.
Ouais, vas-y.
Fleur Pellerin aurait dit, hein, parce que je l'ai pas entendu de sa bouche, que alors tu sais, il y avait eu le rapport sur on pourrait taxer l'échange des données personnelles. Bon, c'est le rapport Colin et Colin sont des gens très intelligents qui avaient dit on est en train de on échafaude des trucs, mais c'est plus une espèce de construction intellectuelle. On est bien conscient du fait que c'est à peu près infaisable. Mmh. Et aujourd'hui, Fleur Pellerin a dit non, mais on pourrait trouver des moyens de taxer, de trouver une assiette d'imposition pour les gens qui ne sont pas toujours physiquement implantés ici, c'est-à-dire pour les gens dont les transactions se passent hors de France, c'est-à-dire Google, Apple, Amazon et
fameux dont on parle beaucoup.
Là, GAFA, Facebook, on pourrait les taxer sur la base du clic ou de la bande passante. Et là, outre je peux pas dire l'infaisabilité, mais ça veut dire quoi le clic, et la bande passante.
C'est une blague, ça.
Ça avait l'air sérieux.
J'arrive pas vraiment à y croire, mais.
Non, mais c'est. Et moi, ça m'ennuie pas, évidemment, que Google paie des impôts.
Ça n'ennuiera personne, mais.
Bien sûr, mais je pense que l'outil le plus normal et le plus intelligent, c'est l'harmonisation des politiques fiscales.
Là, on parle de quelque chose de cohérent, oui, effectivement.
Mais je suis conscient du fait que c'est difficile à faire dans son coin. Ça se fait à plusieurs, l'harmonisation. Dire on va taxer Google sur la bande passante, bon, d'abord il y a un côté opportuniste, c'est on va aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches de ceux qui en gagnent. Mais je pense qu'il y a des services qui doivent consommer pas mal de bande passante, mais qui n'ont pas les moyens de Google. Et moi, la seule peur que j'ai quand j'entends parler d'idées ou de projets de ce genre, c'est de créer des barrières à l'innovation. Faut jamais oublier que Google a été très très gros avant de trouver un modèle économique.
Je te remercie d'avoir exactement le même raisonnement que celui qu'on a eu. C'est exactement ce qui nous dérange dans ce type de...
YouTube a eu pendant des années de monstrueux frais de bande passante avant d'arriver à l'équilibre éventuel, parce que je connais pas les comptes de YouTube aujourd'hui. Donc voilà, moi ce qui...
Je suis pas certain qu'ils gagnent de l'argent encore.
ce qui me gêne, c'est pas la taxe. Ce qui me gêne, c'est bon, il y a des aspects de neutralité du net, etc., etc. Mais ça, on peut y revenir. Mais ce qui me gêne, ce serait les barrières éventuelles à l'innovation. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on puisse encore, dans 5 ou 10 ans, en France et ailleurs, créer des services aussi innovants, sans avoir immédiatement à se poser la question de ah oui, mais je vais pas avoir les moyens de le faire parce que il y a la taxe sur la bande passante. Enfin, ce serait bien pas.
D'accord.
Intel, c'était très bien, mais c'est dans le placard maintenant. C'est à sa place, je crois.
Parlons un petit peu de la fin du monde et de l'économie. À cause de qui ? Là encore, à cause de Microsoft. Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire un petit peu loufoque selon laquelle l'économie mondiale a été mise par terre par une feuille Excel. Oui, monsieur, exactement. C'est un. Alors, ce qu'on a entendu, c'était que un bug dans une feuille de calcul Excel qui a servi de base à toutes les politiques économiques du monde ces 3 ou 4 dernières années aurait fait que les choses ne reviennent pas, ne remontent pas, et que toutes les décisions, compris tous les gouvernements qui s'y sont fiés, auraient été erronées à cause de ce bug. Alors,
c'est génial.
Alors, c'est génial. Remettons un petit peu les choses en place, dans leur ordre. Écoutons un petit peu de quoi il en tourne vraiment. On parle d'une feuille de calcul Excel, effectivement, qui a servi de base aux conclusions de deux économistes, Reinhardt et Rogoff. Qui ont souvent été utilisés par les politiciens et les économistes du monde pour décider de la politique qu'ils allaient suivre. Alors, je vais vous passer les détails de cette feuille de calcul et de l'étude elle-même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas exactement un bug dans Excel ou une erreur dans Excel. En réalité, ce qui a été montré visiblement par d'autres économistes qui ont enfin étudié, enfin qui ont enfin eu accès et étudié cette feuille de calcul, c'est que ces braves messieurs de Reinhardt et Rogoff, ou messieurs Reinhardt et Rogoff eux-mêmes, n'ont pas fait n'ont pas eu des bugs dans leur feuille de calcul. C'est qu'ils ont, on ne sait pas exactement pourquoi ou comment ou si c'est justifié dans leur calcul, mais ils ont omis certaines données qui ne rentraient pas dans leur vision de la chose, dans leur vision de leurs analyses. Par exemple, certains pays européens, les données de certains pays européens après-guerre n'ont pas été inclus. Certaines données qui n'étaient pas en ligne avec leurs conclusions ont été exclues à d'autres endroits. Bref, s'il s'agit effectivement d'une feuille Excel qui serait à la base de tout ça, c'est quand même un petit peu opportuniste de dire Excel explique la crise économique mondiale. C'est pas exactement ça, c'est plutôt une étude soit faussée, soit biaisée, on va dire. Ça vous a séduit un instant l'idée que Excel soit la cause de tous nos maux et de nos problèmes économiques?
Complètement.
Tant qu'on peut accuser Bill Gates et Microsoft.
Non, mais ceci dit, c'est quand même assez dramatique parce que c'est le rapport croissance PIB austérité. En fait, c'était une moyenne qui était positive. Mais au final, si on prend les vrais ratios, la vraie réalité, c'est négatif, quoi. Enfin, ça change complètement le point de vue. Même dans les dernières campagnes américaines, c'était Romney qui citait tout le temps cette étude alors qu'elle est complètement faussée, quoi.
Ce qui est assez terrifiant, effectivement, c'est, bon, là, on rentre plus dans l'économie que dans la tech, mais ce qui est assez terrifiant, c'est que cette étude dont la feuille Excel était à la base a été publiée, je crois, en 2010.
C'est ça.
Et la base de l'étude n'avait pas été rendue publique jusqu'à il y a pas longtemps. Donc en fait, elle n'a pas pu être passée en revue, ce qui est quand même la base de toute étude scientifique. Il faut passer la chose en revue, que les collègues et les confrères le regardent, l'analysent, le vérifient, tout ça. Là, ça n'a pas été du tout le cas, et visiblement, ça n'a préoccupé personne, quoi. Cédric, tu es inspiré par la chose, t'entends rigoler.
Ouais, non. Je trouve ça merveilleux parce que c'est amusant, parce que la même semaine, il y a un papier qui est sorti, je crois que c'est dans le Guardian, je crois, ou le Télégraphe, à Londres, qui dit la grande crise monétaire et économique de 2008, elle a été causée par la consommation de cocaïne des traders. Et oui, avec des témoignages et tout, hein, c'était un papier relativement sérieux. Hein, bon, donc de gens qui étaient un peu, qui ont eu de certains emballements intellectuels. Moi, j'adore l'idée que voilà, tu peux créer une crise financière. Tu peux créer une... Regarde par exemple ce qui se passe autour de ce qu'ils appellent le trading à haute fréquence, où en gros c'est des ordinateurs qui font du trading entre eux, et où évidemment les fonctions les plus importantes c'est celles qui évitent l'emballement. Mais ça marche pas toujours. Il y a des banques qui se sont retrouvées vraiment dans la merde parce que ils avaient des logiciels qui tout à coup s'étaient mis à faire des achats ou faire des paris ou faire des ventes à perte sans. Enfin bon, bref. Donc bien sûr. Tout ce qui prend des décisions à ta place, voilà. Moi, ça me rappelle un truc formidable. Il y a des gens que je vénère en France. Il y en a un, c'est Raphaël Adjian, patron de, le fondateur de Violette, l'inventeur du lapin Wi-Fi, de tout ça, et qui aujourd'hui est à la tête de Sense, une plateforme géniale pour les objets connectés. Allez voir ça. Mais qui surtout avait écrit un bouquin qui s'appelait. Il existe sur son site, vous allez sur le site de Raphaël Adjian, R-A-F-I, Adjian avec un H, et ça s'appelait, je crois, oui, comment devenir riche, beau et intelligent grâce à Word, Excel et PowerPoint. Et en fait, il expliquait une autre crise qui était la bulle Internet, et il expliquait très sérieusement que tout ça était bien évidemment dû à ces outils. Pourquoi ? Parce que par exemple, dans Excel, tu as une fonction solver. Donc, au moment de faire ton business plan que tu vas aller présenter à tes financiers, bah, tu peux partir du résultat, tu peux dire nous allons gagner 200 millions cette année, et tu cliques sur la touche solver, et il te fait l'opération à l'envers, il te montre les données qu'il faut pour arriver à ça. Donc, il est fait ton modèle économique. Et l'autre phrase que je garde en tête parce qu'elle est géniale, lui il explique que la bulle Internet était ce qu'elle était parce que PowerPoint n'est pas un outil fait pour exprimer le doute. ça je trouve ça absolument merveilleux. Donc elle est sur le blog de Raphaël Adjian, téléchargez le bouquin. Bon, c'est un peu daté parce que ça parle de ça à l'époque, mais je pense que c'est encore applicable aujourd'hui, tout simplement parce que quand tu fais une feuille Excel, sauf quand le résultat est totalement incohérent, tu remets pas en cause le résultat.
Oui.
Excel, c'est compté sur le papier.
Ça va nous servir de conclusion sur ce sujet. Je pense qu'elle est tout à fait apte. Donc merci Cédric. On va donc faire une petite pause rapide pour parler de notre sponsor.
C'est très important.
Mais le sponsor, bien sûr.
Bien sûr.
Le sponsor est tout à fait capital. Et capital, justement, parce que non seulement le sponsor nous permet à nous de gagner un petit peu de sous, mais aussi...
Quand tu dis nous, c'est un nous royal. Hein,
Bien sûr. Je parle de moi. Hein.
D'accord.
Mais il va aussi vous permettre à vous d'économiser des sous, puisque notre sponsor, c'est Pritel, et que Pritel, vous connaissez bien sûr le forfait modulo pour vos téléphones mobiles, qui vous permet d'avoir un forfait qui s'adapte à votre consommation chaque mois. Eh bien là, ils viennent de créer le forfait modulo tab, qui est toujours sans engagement et qui s'adapte à la consommation en données de votre tablette. C'est-à-dire que c'est un forfait spécialement conçu pour les tablettes avec 4 paliers différents. Si vous consommez moins de 100 mégas, vous allez être facturé 4,90€ seulement. Si vous consommez, donc si vous avez fait un petit peu plus que ça, jusqu'à 500 mégas, ce qui commence à être relativement costaud, vous êtes facturé 9,90€. Si vous consommez 1 giga, là, vous serez facturé 14,90€. Et si vous allez vraiment plus loin, vous êtes facturé 19,90€, c'est-à-dire jusqu'à 2 gigas de consommation. Donc, l'avantage par rapport à d'autres forfaits de ce type plus ou moins ajustables, c'est que vous ne devez pas décider à l'avance, c'est en fonction de ce que vous avez consommer que la somme adaptée vous.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vous sera débité. Et il y a une autre chose intéressante, c'est qu'il y a aussi un routeur Wi-Fi nomade de Huawei, le E5331 pour les spécialistes parmi vous. En fait, c'est un routeur, une toute petite boîte, une toute petite machine dans laquelle vous mettez la carte SIM et ça vous crée un réseau Wi-Fi sur lequel vous pouvez connecter tous vos appareils. Donc, vous avez un seul appareil et vous allez y connecter votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, tout ça. Et il permet d'en connecter jusqu'à 8. Il coûte 79 euros TTC. Et toutes ces offres-là sont disponibles pour les nouveaux inscrits et pour les clients Pritel existants. Donc, je vous rappelle, ça s'appelle le Modulo Tab. C'est le nom de ce nouveau forfait adapté aux tablettes. Et on vous encourage à aller jeter un coup d'œil chez Pritel parce qu'il y a un sacré paquet d'offres intéressantes de ce type-là. On remercie donc Pritel et vous, chers auditeurs, d'aller jeter un coup d'œil là-bas pour nous soutenir du même coup. On continue donc avec la suite. Et la suite, c'est les news et rumeurs. Les news et rumeurs sur lesquelles on passe peut-être un petit peu moins de temps que nos news principales. La première news dont je voulais parler, c'est un sujet qu'on a couvert en long, en large et en travers dans le dernier Upload. L'autre émission que j'anime avec mes camarades Corben, Cédric Bonnet et Jérôme Kainborg. On en a parlé pendant une bonne demi-heure. Donc, vous savez que Abratis a été retiré de l'App Store d'Apple et que Fleur Pellerin s'en est mêlé, qu'il y a eu toute une controverse, une polémique. Comme je le disais, on l'a couvert en long, en large et en travers. Je le mettrai peut-être d'ailleurs cet extrait à la fin de l'émission, aujourd'hui. On verra. Mais si je la mets, je l'ai pas mis. Je vous encourage à aller le voir, à aller écouter l'émission Upload dans son intégralité. Mais donc, je voulais quand même le mentionner pour avoir un petit peu vos avis sur la chose, Florence donc et Cédric. En une minute, qu'est-ce que vous avez pensé de cette controverse App Gratis contre Apple et son App Store et ses règles draconiennes, peut-être Cédric?
Ouais, il y a deux choses. D'un côté Apple et de l'autre côté App Gratis. Côté App Gratis, la vraie question c'est de savoir s'ils ont franchi la ligne jaune. Moi, je suis pas utilisateur d'App Gratis, donc j'ai assez peu d'informations de première main sur la question. Il y a des gens qui m'ont juré les yeux dans les yeux que quand même App Gratis, ils abusaient un peu parce que par exemple, ils mélangeaient sans forcément les mettre en exergue, par exemple, la présence d'annonceurs dans les listes d'applications qui proposaient. Mais par contre, j'ai des gens qui, en tant qu'annonceurs, ont utilisé App Gratis et m'ont dit, waouh, ça m'a coûté vraiment cher, mais par contre, ça cartonne pour lancer une application. Ça cartonnait en tout cas. C'est-à-dire que voilà, ça m'a coûté 10 000 euros, mais boum, j'étais dans le top 5.
C'était un peu le cœur du problème, c'est que l'une des choses qu'on a dit, c'est que ça servait, enfin App Gratis servait de service pour payer pour être dans le top, quoi.
Bah, c'est pas ça, c'était payé pour générer du téléchargement et de fait du coup organiquement on s'est retrouvé dans le top parce qu'il suffit, t'as pas besoin de faire des millions de téléchargements pour être dans le top 5. Il y a des choses qu'ils auraient apparemment pu faire un peu mieux. Il y a des papiers qui sont sortis mais qui se sont rétractés après disant qu'ils avaient vraiment dépassé la ligne jaune en faisant en plus des téléchargements fantômes, tu vois ce que je veux dire, en ayant des bots qui allaient télécharger.
Ah oui, ça j'ai pas entendu, oui.
Voilà,
non,
moi ça, j'ai entendu, je l'ai lu et le lendemain le type qui avait dit ça c'est rétracté sous la pression amicale des avocats d'App Gratis en disant non.
Oui, non, mais parce que là c'est grave quoi.
Oui,
c'est...
voilà, ça si c'était vrai ce serait grave. Mais bon, voilà, le problème en fait c'est que il se trouve face à un Apple dont la philosophie est de dire on aimerait que nos classements soient purs entre guillemets. Voilà, que l'App Store et les classements de l'App Store soient une méritocratie. Et c'est là que de toute façon, quels que soient les mérites ou les fautes vénielles commises par App Gratis, ça pouvait pas durer très très longtemps. Parce que voilà, c'est compliqué pour Apple de
se dire. Que ce soit volontaire ou pas, ça fausse un peu les classements, quoi.
J'ai des amis qui eux, ils voient plus une histoire de concurrence parce que, dans le fond, qui vient de mettre 10 millions à gratis, il y a Orange, bref. Moi, j'ai pas de théorie de la conspiration comme ça. Je pense pas que c'est Apple qui un jour s'est dit, oulala, mais regardez, on a des opérateurs, partenaires qui, à côté, financent leurs propres App Store, etc.
Oui, non, là, je pense pas.
J'en suis pas là. Pourquoi pas, hein, ça aurait pu devenir un problème. Mais et l'autre problème en face, c'est Apple. C'est-à-dire que quand tu lis les règles que signent les développeurs d'applications pour publier des apps dans l'App Store, il y a des règles qui sont tellement ouverte à interprétation qu'Apple en gros se laisse les mains libres pour faire ce qu'il veut derrière.
Oui, c'est sûr.
Quand l'une des règles cruciales de l'App Store, c'est de dire que tu ne vas pas reproduire les fonctionnalités que l'iPhone ou l'iPad a déjà par ailleurs, enfin déjà dans le système. Dans ces conditions-là, Apple pourrait parfaitement retirer Chrome, par exemple, de l'App Store.
Bien sûr.
Imagine que ça ferait plus de bruit qu'App gratis. non mais c'est sûr, ils pourraient retirer Dropbox en disant non mais attendez, nous avons iCloud.
Ah bien sûr,
ils pourraient retirer mille choses qui aujourd'hui nous sont tous à peu près indispensables. Mais voilà, les règles sont ainsi faites que Apple, et je pense que il y a pas de hasard, c'est pas fortuit de la part d'Apple de faire le wording de, si tu veux, de ces règles de cette façon. Non, ils se laissent les mains libres parce que tout ça est une chose absolument évolutive et leurs intérêts dans 2 ans ne seront pas ceux d'aujourd'hui qui n'étaient pas ceux d'il y a 3 ans. Il y a quelque chose qui a beaucoup évolué depuis les débuts de l'App Store. L'App Store et même iTunes, dans une certaine mesure, à la base, c'est pas un outil pour faire de l'argent pour Apple. Apple fait de l'argent en vendant du matériel. Enfin, c'était pas.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, ça commence à...
C'était un outil de fidélisation. En clair, évidemment, une fois que t'as installé 132 apps, dont 80 payantes, bah, t'as quand même beaucoup moins tendance à aller voir la concurrence, que tu te dis, bon, il est joli, le HTC One, ou le Galaxy S4, ou que sais-je encore, mais alors je vais perdre toutes mes apps, ah là là, tu te rends compte, j'ai mis tellement d'argent dedans. Donc, c'est un outil de fidélisation, c'est faut faire en sorte que les gens ne s'en aillent pas. Ça a évolué, parce qu'aujourd'hui, ça commence à être un vrai business, avec du bénéfices, même si ça coûte très cher à faire. Ils ont perdu de l'argent, ça paraît fou à dire, mais ils ont perdu de l'argent pendant des années avec l'App Store, parce que il faut des gens pour les valider, ils payent l'hébergement, il y a beaucoup de légal là-dessus. Qu'est-ce qui est en train de couper du saucisson ou de faire des paquets derrière? J'entends des...
Je crois que Florence essaye de discrètement...
Ah non,
discrètement
pour le coup, non.
Ah bon, d'accord.
C'est vraiment pas moi, là.
D'accord.
Tu vois, c'est vite fait de désigner des coupables.
Oui, exactement. On se croirait sur Reddit, là.
Burn the witch. Donc voilà, c'est en train de devenir un vrai business. Donc forcément, là aussi, les choses évoluent, les règles évoluent. Ça rappelle de toute façon à tous les développeurs d'applications quelque chose d'important. C'est que quand tu vas jouer dans le bac à sable d'Apple, bah, c'est le bac à sable d'Apple.
C'est sûr.
Il y a une application française qui fait de la BD, j'ai plus son nom en tête. Et eux on les a menacés de les sortir, on les a sortis du fait du contenu.
Ils ont dû retirer un bon tiers au final de leur
catalogue.
Ah, Isneo, voilà.
Isneo, voilà, absolument. Bah, tu peux t'en plaindre, mais voilà, c'est la règle.
Justement, on en parle dans l'épisode d'Upload. Donc moi, je ne vais pas commenter, même si j'aurais mille choses à dire. J'ai plutôt demandé.
C'est au bon plaisir du Seigneur.
J'ai plutôt demandé à Florence ce qu'elle a pensé de l'intervention de notre fleur pèlerin national, qui a accouru à la rescousse d'App Gratis en disant que c'était vraiment trop pas gentil de la part d'Apple. Bon, j'oriente un petit peu la question, mais sincèrement... Mais c'est une vraie question tout de même.
C'est une vraie question. Après, qu'elle s'intéresse à une seule et unique entreprise, c'est peut-être un peu problématique, parce que je pense que ce ne sont pas les seuls à avoir eu des problèmes avec Apple. C'est une application qui est très sympathique et qui offre des promotions très intéressantes pour le consommateur, mais encore une fois, je suis assez d'accord avec Cédric, la politique d'Apple, elle est claire, hein. Toute application qui interfère dans le classement n'a pas sa place. Les bases, elles sont posées. Comme le gouvernement s'y intéresse, donc c'est la preuve que c'est un vrai débat et que la question est légitime. Mais bon, les consommateurs, eux, sont clairs, ils aiment bien App Gratis et les applications, et peut-être qu'Apple devrait se poser cette question aussi, parce qu'au final, ça leur fait du trafic.
C'est pas faux. Moi, je suis pas convaincu. Je pense que le problème des classements était effectivement un gros problème, mais bon. Bref, C'est censé être la partie où on parle pas trop longtemps des sujets, donc je vais enchaîner avec Twitter Musique qui arrive après Twitter Vidéo, donc Vine qui est cette forme de mini vidéo de 6 secondes. Twitter Musique qui est arrivé, mais aux États-Unis malheureusement uniquement. Ça devrait arriver en France bientôt, on l'espère. Donc une application séparée qui permet de partager la musique qu'on écoute sur Twitter. Il y a aussi eu des rumeurs selon lesquelles la pub vidéo arriverait sur Twitter cet été et une sorte d'adwordification de Twitter qui serait au programme, en ce sens que les annonceurs pourraient choisir des termes sur lesquels ils veulent faire de la pub, et quand on utilise ces termes-là, eh bien la pub de ces annonceurs apparaît dans notre flux. Alors, la pub en vidéo et d'autres manières, c'est pas forcément une surprise. Ça devait finir par arriver. D'ailleurs, ça a déjà commencé sur Twitter. Twitter Musique qui arrive aussi, qui est déjà arrivé aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de Twitter? Ça y est, ils sont réveillés après un an et demi de torpeur, et puis ils se mettent à bouger, à créer plein de trucs d'un coup. Je comprends pas bien ce qui se passe chez eux. Ah, ça n'inspire personne.
Non, si, moi, tu sais, je travaille à la télé, je peux parler de tout, hein. Mais ils tentent des choses, ils ont raison de tenter des choses. Mais ils sont pas seuls, hein. Moi, j'ai lu aujourd'hui dans la remarquable newsletter Petit Web de Geneviève Petit, que Facebook s'apprêterait à mettre de la vidéo, des pubs vidéo dans ton flux. Et alors, c'est jusque là.
Attention, là, c'est le truc qui va vous faire hurler de
mais jusque là ça va, et c'est la fin de la phrase qui tue. Encore une fois, il faut toujours apprendre la fin de la phrase avec des vidéos qui seraient en auto-start. Alors bon, il faut voir, enfin ce n'est peut-être qu'un projet, ils ont tendance
à... Et puis c'est peut-être
auto-start sans le son.
Bah...
Alors, tu sais qu'il y a eu des négociations entre les régies, les agences, les annonceurs, etc., qui disaient, bon allez, en France, on va pas déconner, parce que ça pourrit la vie des gens. C'est vrai que c'est terrible quand t'as ton, je sais pas, Chrome ou Firefox ouvert avec 62 onglets, et que tout à coup, il y a un truc qui part, et que tu es incapable de savoir.
De savoir lequel, oui.
Mais oui, bref. Donc, si on peut éviter ça, ce sera bien. Mais là encore, Facebook, comme d'autres, comme Twitter d'ailleurs, ont tendance à faire le rollout de ce genre de choses de manière progressive, à tester, souviens-toi des statuts sponsorisés, des posts que tu peux, dont tu peux faire la promotion, ce qui est détestable honnêtement, mais bref, mais s'ils font ça, moi le jour où Facebook fait ça par exemple, idem pour Twitter, s'ils te mettent des pubs en auto-start dans ton flux, je te promets que ce jour-là tu vas avoir des milliards de messages disant si c'est comme ça je ferme mon compte. Bah oui, mais bon, en même temps c'est des services vachement bien, ils ont le droit de gagner leur vie.
Oui, mais s'il y a des pubs en auto-start, là, pour le coup, je pense que ça leur ferait une image, ça ternirait tellement leur image, ça serait tellement négatif pour eux, que je n'arrive même pas à croire qu'ils le feraient. Franchement.
C'est le même Facebook qui dit non, nous on met pas des gifs animés parce que ce serait vraiment intrusif.
Ouais, bon. OK.
Bon, je pense que ce sera mal vécu.
Moi, je trouve ça assez dynamique de la part de Twitter. Ils essayent des choses. Ils ont déjà leur module vidéo avec Vine. Ils ont un module musique. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. J'ai trouvé pendant longtemps, pendant un an ou deux, que Twitter était un petit peu endormi. Là, il commence à bouger. Je trouve ça bien. Florence, ça t'inspire quelque chose ou?
Moi, pour le coup, Twitter Musique, je trouve ça assez légitime, même s'il y a d'autres services qui proposent le partage et autres, mais c'est toujours très sympa dans le côté communautaire de découvrir des choses, et Twitter, pour ça, est vraiment dans son rôle, un petit tweet pour découvrir tel ou tel artiste, au contraire.
Oui, moi je trouve ça très très bien, effectivement. J'utilise Soundtracking sur iPhone depuis, je crois qu'il existe sur Android aussi, depuis longtemps, mais c'est vrai que je me sens un petit peu isolé, on est genre 4 sur Soundtracking à partager nos morceaux.
Si Twitter... J'ai un compte chez Deezer, mais qui est un compte à peu près inactif, parce que voilà, j'utilise plutôt Spotify, et on ne traitera pas de journaliste corrompu, je paye mon compte Spotify alors que j'ai un compte gratuit chez Deezer, mais j'utilise celui que je paye. Ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que tous les jours, j'ai des mails de « Machin, suivez votre activité musicale sur Deezer ». Je suis désolé, les mecs, elle doit être décevante, ton activité musicale sur Deezer. Mais je dis
écoute,
pas que Deezer, c'est mal. Hein,
tu apprécieras sans doute Twitter Music, puisqu'il fonctionne avec Spotify, Ardio, iTunes et peut-être même Deezer, je suis pas sûr.
Et c'est vachement bien parce que c'est quand même ça la vocation première de Twitter, c'est d'être un peu le pou de l'internet, le pou mmh. P-O-U-L-S. qu'on se comprenne.
T'es sûr que bon.
Okay. Voilà, c'est vraiment c'est exactement comme les trending topics. Ils peuvent faire de la trending music, de la trending TV, de la trending du news. Ils peuvent tirer plein d'intelligence de la montagne de données qu'ils produisent tous les jours.
Et c'est pas bête du tout de séparer l'application de Twitter pour garder Twitter hyper simple et hyper enfin aussi intuitif que possible,
intuitif. Mais allons déposer intuitif.com.
Pas bête. Et du coup, en sortant l'application qui fait quelque chose de différent de l'application principale, je trouve que c'est une approche vraiment intelligente. C'est déjà ce qui se passait en fait avec Instagram qui servait à poster des photos sur Twitter et sur d'autres réseaux. Du coup, ils l'ont répliqué avec Vine et avec musique, même si la partie photo qui était vraiment pour tout le monde et a été intégrée à Twitter lui-même. Mais bon, bref. On devait
avertissement à Twitter, oui. Si vous lancez Tweet News avec les trending news, la presse française vous demandera de l'argent. Moi, je vous le dis, je préfère vous avertir tout de suite.
Oui, il faut qu'ils soient au courant. On devait parler un tout petit peu de CISPA, mais vous savez quoi, ça me déprime. Je vous propose plutôt de sauter le sujet et de parler des ventes de PC qui s'effondrent. Alors, ça me déprime aussi, mais un petit peu moins. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la faute de Windows 8. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu. C'est sûr que Windows 8 n'est pas remplacé, ne remplace pas Windows 7 à un rythme effréné, mais il faut dire que Windows 7 était tellement bien, est tellement bien conçu et tellement efficace, et les ordinateurs ont tellement peu besoin de plus de puissance que ça me surprend pas tellement, étant donné la popularité des tablettes, que les gens se disent bon, plutôt que d'acheter un nouvel ordinateur alors que celui-là marcherait bien, bah je vais plutôt m'acheter une tablette et puis on verra pour l'ordinateur dans 2 ou 3 ans. Je me trompe, c'est vraiment la faute. Pardon, vas-y Florence.
Non, il y a le hardware qui évolue quand même peu depuis 1 an et demi, donc si le PC est fonctionnel, que l'OS convient, il n'y a aucune raison d'acheter autre chose comme ordinateur, sachant que ça coûte quand même très cher.
Et puis surtout qu'il y a des tablettes super attrayantes qui... Mais bon, ouais, ok.
Il y a des études intéressantes, il y en a une du cabinet Deloitte, qui explique de manière très docte que dans le monde de l'entreprise en tout cas, on achète des tablettes maintenant, mais que c'est jamais pour remplacer un PC. Que quand on regarde, en fait, quand on achète des tablettes, c'est pour remplacer du papier. Et donc, les ventes de PC en entreprise, c'est pas tellement on n'achète pas moins de PC, mais je pense qu'on en achète moins souvent. Parce que.
Oui, c'est ça, exactement.
Florence le disait très bien. La valeur ajoutée du PC que tu achètes aujourd'hui par rapport à celui que tu aurais acheté il y a 2 ans, elle est finalement assez limitée. Il fut un temps où, tu vois, d'année en année, tu doublais vraiment la puissance et ça t'ouvrait des nouvelles portes en termes d'application. Aujourd'hui, c'est moins vrai.
Tout le monde fait Facebook, Excel et
regarde YouTube. Google qui fait de la contre-programmation en disant « Attendez, nous on va faire des Chromebooks parce qu'en fait, finalement, dans la vraie vie réelle, vous n'avez pas vraiment besoin d'autre chose. Ouais. » Sauf pour faire de la retouche photo, de la vidéo, machin. Ouais. Mais donc voilà, moi, le PC que j'ai sur mon bureau, au bureau, c'est un Dell, il est absolument antédéluvien, mais pour ce que je fais tous les jours, dans l'ensemble, il suffit.
Ça suffit, ouais.
Mais alors tu penses pas que... Et en plus il est sous XP donc...
Oh, oula. Ah oui, non mais là tu me fais un petit peu mal quand même, Cédric. Là ça allait jusqu'à il est sous XP, là ça me fait un peu mal au cœur quand même. Donc tu penses pas que Windows Blue, Windows 8.1 qui ferait revenir le bouton Start et qui autoriserait les gens à booter sur le bureau directement, deux fonctionnalités qui provoquent les lires de ceux qui les ont perdus avec Windows 8, ça motiverait pas les gens à revenir sur Windows 8. Windows 8, quoi.
Pas forcément. Microsoft, ils ont fait un truc gonflé avec Windows 8. Et moi, je suis toujours content quand les gens comme ça font des trucs gonflés parce qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner.
C'est marrant, justement. J'écoutais là encore This Week in Tech ce matin. Et il y avait quelqu'un qui disait quelque chose de tout à fait vrai. Il disait si Microsoft n'avait pas fait ça, tout le monde serait en train de leur tomber dessus parce que justement, ils n'avaient pas fait évoluer les choses et qu'ils n'avaient pas pris de risques et qu'ils n'avaient pas fait de machin.
Ils étaient forcés de faire un système qui marche à la fois pour des machines normales et pour des machines tactiles. Donc voilà, c'est des choses tellement différentes que c'est pas facile. Mais ce choix de dire on va avoir l'interface métro d'un côté et puis une interface avec un start de l'autre, c'était pas évident à tenir. Donc voilà, qu'ils reviennent un peu dessus en disant on va faire un peu les deux en même temps et ce sera peut-être un peu plus cohérent. Pourquoi pas ? Maintenant, de fait, normalement, à chaque nouvelle version de Windows, les constructeurs observaient vraiment, tu vois, un gros boost sur leurs ventes. Là, apparemment, ça n'a pas été le cas parce que Windows 8 était une bête un peu curieuse. Donc, sauf pour les, tu vois, pour faire des gros PC familiaux que tu vas mettre sur un buffet dans la cuisine où tout le monde aura les photos, etc., qui soient tactiles. Là, ça fait un sens immédiat, bien plus que Windows 7. Mais c'est encore pas le cas général de l'utilisation. Et encore une fois, c'est pas tant que ça génère pas beaucoup de ventes, c'est que c'est aussi des ventes différées parce que les gens n'en voient pas, ou n'en ressentent pas, ou n'en ont pas l'urgence.
C'est sûr. Voilà. Florence, tu voulais dire quelque chose ? J'ai entendu.
Non, globalement, enfin, c'est surtout que le monde high-tech c'est une sorte de mutation. On dirige vers d'autres supports qui correspondent à nos usages. Et effectivement, les PC, c'est peut-être plus pour le boulot entre guillemets, sous des XP, pourquoi pas. Hein, je ne juge personne. Et pas forcément sous des Windows.
Ça fait un an qu'il doit être upgradé. Hein, j'ai pas bien.
Mais c'est vrai qu'en plus Windows 8 était quand même très disruptif, donc c'est perturbant pour les consommateurs. Ils seront peut-être plus à l'aise sur une tablette ou d'autres supports, et il faut voir d'ici peut-être un ou deux ans quelle stabilité ça aura surtout. Effectivement, ouais, le PC.
Moi je pense effectivement, t'as raison, d'ici un ou deux ans le tableau sera bien différent, et peut-être qu'effectivement cette histoire de démarrage direct sur le desktop et le bouton start, qui entre parenthèses, il n'y a pas un menu start, hein, un menu démarrer, ça vous amène directement à l'écran démarrer comme on est sous Windows 8 aujourd'hui, mais peut-être que ça sera genre l'excuse pour que les gens qui n'aiment pas Windows 8 aujourd'hui se disent « Ah !» Voilà, là, voilà, c'est mieux, là, j'aime bien, là, ça me va. Et comme toujours, on a la version genre 6 mois après ou quelques temps après, la sorte de service pack 1 qui enfin rend Windows acceptable pour tout le monde, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose que la version précédente, quoi. Mais bon. Surface 7 pouces, elle serait dans les sacs de Microsoft pour la prochaine version de la Surface. Donc, décidément, les tablettes 7 et 8 pouces sont le format qui a le vent en poupe en ce moment. Moi, j'avoue que ma fiancée a un iPad mini. Le format me plaît encore plus que l'iPad, que le grand format. Est-ce que vous aussi, vous êtes fan de ces formats intermédiaires 7 pouces par rapport aux 10 pouces ou ça vous parle pas?
Ah non, moi j'ai 4 iPads, hein, donc.
Ah d'accord, ok. mais est-ce que t'as un iPad mini dans le lot?
Bien sûr, j'en ai même 2.
Mais tu préfères lequel? C'est ça la question.
C'est le mini.
Ah,
mais c'est-à-dire mes deux iPads plein format, ils sont rangés.
D'accord, ok. Florence, toi, c'est...
Parce que le mini, tu ne poses pas la question de savoir si tu le mets dans ton sac le matin ou pas, quoi.
Il est déjà dans ton sac, il s'y est glissé magiquement.
Non. Moi, pour la maison, c'est que j'apprécie beaucoup le 10 pouces, parce que, pour le coup, j'ai un iPad, il reste vraiment à la maison, il voyage pas, donc c'est très appréciable d'avoir un grand écran. En revanche, comme téléphone, j'ai un Note 2, donc...
Ouais, donc t'as déjà presque une tablette 7 pouces, quoi.
On n'en est pas loin, soyons honnêtes. Donc, pour la mobilité, c'est très pratique, mais c'est vrai que, pour la maison, en étant vraiment installé, j'aime profiter d'un écran qui soit un peu plus imposant.
D'accord, bon. Donc on a un petit peu des deux. FWD.us. C'est quoi ça? Est-ce que vous connaissez?
Si tu me laisses 10 secondes, je connais.
Forward Us, en fait, c'est assez intéressant. Je vais en parler très très rapidement, mais c'est pour montrer à quel point on a un monde industriel et politique en France qui est peut-être loin de ce qu'on peut connaître aux États-Unis. Bon, parfois c'est pour le meilleur. Là, en l'occurrence, je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce qu'ils font là-bas. Zuckerberg, donc Mark Zuckerberg, président de Facebook, j'allais dire de Twitter. Mon Dieu. De Facebook et d'autres grands noms de l'industrie tech ont créé Forward.us, donc avançons.us.amérique, et puis ensuite avançons ensemble. Et c'est une sorte de groupe de lobbying, un groupe politique qui est prévu et dont le but sera, bon déjà il est bipartisan, donc il est apartite, et le but sera de continuer à faire en sorte que la force de travail américaine soit compétitive, avec l'un des objectifs principaux qui est de refondre, ou pas de refondre, mais d'adapter les lois sur l'immigration pour que les États-Unis puissent continuer à inviter à recevoir les travailleurs dont ils ont besoin. Alors attention, on parle pas là de légalisation d'immigration illégale, hein, comme il y a un autre débat sur ce sujet. Là on parle vraiment d'immigration de travailleurs qualifiés avec des quotas, etc. Mais ils voudraient avoir plus de travailleurs qualifiés qui puissent venir aux États-Unis avec des arguments intéressants, etc. Mais il y a une chose que j'ai remarqué il y a déjà quelques semaines, c'est à quel point on a, aux États-Unis en particulier, un nombre important d'étrangers, de gens qui ne sont a priori pas directement originaires des États-Unis, qui sont en charge d'équipes vraiment importantes dans ces sociétés de l'industrie tech. Et notamment, ça n'étonnera personne, on a énormément d'Indiens qui sont, d'ailleurs quand on les entend dans les vidéos, qui parlent avec l'accent indien vraiment, hein, c'est des gens soit qui sont arrivés quand ils étaient tout petits, soit qui sont venus après leur éducation. Et ça m'a, enfin, c'est quelque chose qui est à la fois surprenant et enthousiasmant. Et je me dis que c'est peut-être quelque chose, quand on voit Xavier Niel qui crée une école parce qu'il a besoin de gens qualifiés, je me dis peut-être que la solution serait aussi là. Peut-être qu'il faudrait également inviter des gens qui savent faire ce dont on a besoin de cette manière. En tout cas, aux États-Unis, ça a l'air de fonctionner. Ils ont l'air d'être en demande.
Écoute Patrick, j'ai une bonne nouvelle, c'est un projet en cours en France.
Magnifique.
D'avoir une sorte de start-up visa pour, oui, permettre à des gens de venir démarrer des sociétés en France. Mais alors il faut pas s'en faire une vue, tu vois, c'est pas toujours un rêve, hein. Tous les gens qu'on connaît qui sont partis aux États-Unis, ils ont quand même passé pas mal de temps chez leur avocat en immigration pour choisir le bon visa, le bon statut, etc. Mmh. etc. Mais oui, l'important c'est que ce soit possible. Et de fait, je veux dire, on n'est pas plus con que les autres, mais on n'est pas forcément plus intelligent non plus. Donc voilà, on va pas dire non, nous n'avons pas besoin d'entrepreneurs étrangers. Voilà, parce qu'il y a bien des gens qui font le calcul inverse en disant voilà, mon produit est tellement génial que je vais aller le lancer dans la Silicon Valley directement. Donc voilà, mais c'est pas une immigration qui pose problème en France. Parce que c'est un truc qu'on a déjà amorti, si tu veux, avec entrer dans l'Europe, où tout à coup t'as des Européens de toutes nations qui viennent en France pour démarrer des sociétés. Ça pose pas de problème. Il y a pas de raison que voilà. Mais ouais.
Non, c'est sûr. Moi, ce qui m'enthousiasmait, c'était cette organisation créée par c'est du lobbying, hein, finalement, mais par Zuckerberg et ses amis de la Silicon Valley, une implication politique que j'ai trouvé intéressante. Mais bon.
Oui, enfin, c'est de la politique motivée par des intérêts, parce que
ah, mais bien sûr, évidemment, oui.
Développeurs,
ah, bah, enfin, la politique est toujours motivée par des intérêts, je pense.
Oui. Non, Patrick, ça peut être un idéal.
C'est vrai aussi, et là c'est
faut
vrai.
Il faut aller voir la page d'accueil de Forward FWD.us. C'est, tu vois, c'est quand même des gens sur le bateau qui arrivent dans, c'est la rade de New York. Oui, c'est oui, absolument. Oui, oui. Donc c'est un peu, tu vois, c'est Ellis Island, Give me your tired, your poor, your huddled masses et tout ça. Hein. Alors que là, on a quand même un peu passé ce truc-là. C'est quand même des gens qui vont arriver en avion directement à San Francisco. Ils vont pas arriver en bateau.
Tu casses mes rêves, Cédric.
Désolé, je suis briseur de rêves, moi.
Oui, revenons donc à la dure réalité de la vie et de la mort, monsieur. Puisque tu aimes casser l'ambiance.
Tu brises bien l'ambiance, là.
On va parler de Google Inactive Account Manager, si vous ne le saviez pas. Si votre compte devient inactif chez Google, eh bien, vous pouvez spécifier à l'avance ce qui va se passer, et notamment prévenir, enfin spécifier à Google que vous voulez que vos données, au bout d'un certain temps d'inactivité, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, vos données soient envoyées à un proche. Vous pouvez spécifier de qui il s'agit. Évidemment, l'une des utilisations de cette fonctionnalité nouvelle serait, pour le cas où vous seriez malheureusement amené à disparaître, à mourir, hein, je dis les choses plus clairement, eh bien voilà, votre compte pourrait être remis entre les mains, enfin pas votre compte, mais les données pourraient être remises entre les mains de quelqu'un que vous souhaitez, ou alors même supprimer. Florence, tu as mis en place ton inactive account manager?
Bien sûr, j'ai prévu de mourir d'ici une trentaine d'années à peu près, donc
d'accord. Bon, ben, vaut mieux être prêt en même temps. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est un vrai débat actuellement, les données virtuelles avec le décès, est-ce qu'on peut les transmettre ou pas, et si ça peut ouvrir à des questions, je trouve ça très intéressant. Enfin, reste à voir ce qui est vraiment légué, ce qui est donné, dans quelles circonstances, mais je trouve que l'initiative n'est pas mauvaise. C'est un peu glauque peut-être, mais...
Mais c'est nécessaire, oui.
Des
services comme Facebook, par exemple, enfin comme tous ces services, hein, mais Facebook, vous imaginez, avec 1 milliard d'utilisateurs mensuels, ils doivent en avoir quelques millions qui meurent tous les jours.
Et c'est des comptes qui sont assez terribles.
Tous les mois.
Oui, non, mais sur vos propres comptes, vous voyez apparaître des... Enfin, vous connaissez peut-être machin, alors qu'il est décédé, c'est quand même assez terrible. Alors, effectivement, oui, avec ce genre de service, on évite, c'est compliqué, quoi.
Il est possible que Facebook fasse le même type de modification bientôt.
Je le dis maintenant avec le sourire, mais il y a 4-5 ans, j'ai un ami qui a manqué de savoir vivre et qui en est mort. Et ce qui était terrible, c'est que pendant des mois après, vu que son PC était utilisé par, je sais pas, quelqu'un de la famille, je le voyais sur Skype, actif.
Ah, mon Dieu.
Et ça, c'est quand même assez
terrible. C'est rude.
Ça, c'est la première fois, c'est... Je trouve ça vachement bien de la part de Google, parce que c'est vrai que t'as raison, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions que, par exemple, les réseaux sociaux s'étaient pas posées pendant longtemps. Alors Twitter, il n'y a pas vraiment de problème parce que l'essentiel est public, et les messages privés, est-ce que vraiment tu veux récupérer les messages privés, voilà, bon. Mais pour Facebook par exemple, ou pour tous les services de Google, bien évidemment, tous les endroits où tu vas stocker des photos, où tu vas stocker des messages, etc., pendant longtemps, Facebook s'était pas posé la question, et ça devenait assez terrible, quoi. Et du coup, alors maintenant, il y a un statut, hein, mais il y a une procédure à suivre, c'est assez compliqué.
Oui, on peut pas le faire soi-même en prévision d'eux. C'est arrivé.
Oui, voilà, parce que le problème, c'est que tu ne seras pas là pour leur dire que tu es mort. c'est mal foutu. Moi, je dis, il y a un problème de feature. Alors que là, oui, ça paraît bien de dire 3 mois, ça me paraît un peu court, parce que, réfléchissons.
Si tu pars dans l'Amazonie,
sabbatique, on n'est pas connecté, effectivement, mais maintenant, dans ces cas-là, ça peut être un délai assez long.
Non, mais enfin, qui ne se connecte pas pendant 3 mois.
Pas une année pour sans se connecter à Google, si ça arrive.
Oui, bon, Google, soit.
je serais mort, ou alors juste au bord du suicide, quand même, dans l'ensemble. mais ça pose plein de questions, parce que, de fait, ça suit pas le circuit habituel de tes biens en cas de décès, c'est-à-dire que ça passe pas directement à ton conjoint ou ta conjointe, par exemple. Tu peux choisir, et je pense qu'il y a des stratégies à mettre en place. Ça, c'est un peu comme pour filtrer tes mails. Tu dis, alors les mails qui vont là, je vais les mettre là, et ça, je vais le classer ça, et ça va faire un script qui. Bah là aussi, il faut avoir une procédure en place. Et je me posais la question, moi, de savoir, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, toutes les photos, elles seraient, à mon avis, forwardées immédiatement à la mère de mon enfant. Mais les mails, par exemple. Est-ce que j'ai envie que mon épouse lise tous mes mails? Même les mails précédents. Tu vois, même si voilà, tout va bien et vraiment et je ne dis pas de mal de mon épouse dans mes mails. À la fin,
Cédric, qu'est-ce que tu dis de ton épouse dans tes mails?
Je le dis avec d'autant plus de légèreté que j'ai absolument rien à me reprocher. Mais il y a des gens qui, à mon avis, ont des questions à se poser sur le contenu de leurs mails. Donc je pense que la bonne procédure, c'est d'avoir, tu vois, ton meilleur ami ou machin, etc., à qui lui tu vas faire passer, par exemple, tout le contenu de ta boîte mail, pour qu'il y jette un œil prophylactique, dirons-nous, avant de laisser ça à ta veuve esselée.
Enfin, en même temps, si t'as 10 ans de mail, ça a intérêt à être un vrai bon pote, hein, pour qu'il...
Bah, faut que ce soit un vrai ami, oui, ça, oui. Clairement. Ou alors, avant de le faire, c'est l'occasion d'aller faire un gros filtre sur votre boîte mail, d'aller revoir, d'aller retirer les mails de vos anciennes copines, anciennes maîtresses, que sais-je encore, etc. Mais c'est intéressant, parce que ça te force à te poser des questions sur ton passé numérique. Et c'est pas des choses qu'on fait, parce que voilà, toute cette histoire, elle est encore finalement récente, mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, wow.
Wow, exactement. Voilà. Deux dernières petites news avant de conclure l'émission. Une décision de la cour d'une cour de justice européenne, je ne me souviens plus laquelle exactement, rendrait sans doute possible enfin des licences de musique au niveau global européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une société comme Spotify, Deezer, Amazon, Apple veut négocier des contrats avec un label ou avec une société qui gère les droits des artistes, elle est obligée de négocier dans chaque pays individuellement. Donc ça rend les choses immensément compliquées et extrêmement longues. Eh bien, il semblerait que une décision qui a été rendue par la Cour générale européenne, alors voilà, je vous livre le nom, pourrait rendre possible des négociations de licences qui soient valides au niveau européen. Il y a une question de, il y a plein de questions légales qui rentrent en ligne de compte. Je vais vous passer les détails, mais bon, ça serait une super bonne nouvelle. On y arrive toujours, hein. On arrive à avoir des licences un petit peu partout, mais c'est pas forcément les mêmes partout. Ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps à négocier. Si c'était le cas, il serait tout à fait possible qu'on ait les services qu'obtiennent les Américains. Peut-être pas exactement en même temps, mais en tout cas très, très vite après.
Bonne nouvelle, tout à fait. Il y a des choses qui se sont montées là-dessus, c'est-à-dire que pendant longtemps, faire par exemple des applications autour de la musique, tu vois, le jour où ils ont fait Guitar Hero, il a fallu qu'ils aient négocié quasiment chanson par chanson. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y a quand même, c'est plus facile parce que par exemple, tu peux plugger ton application sur Deezer. Exemple, c'est-à-dire que tout à coup, il y a une
application... Deezer a négocié les droits pour toi et voilà.
Voilà, j'étais à Lille la semaine dernière chez Eura Technologies, une espèce de gigantesque pépinière à start-up absolument démente. Et il y a 132 sociétés, bref, et dans le lot, il y a une petite agence qui développe des jeux, dont un jeu qui s'appelle Lali Lala. Alors où il faut que tu chantes des trucs et que tu les fasses reconnaître à tes amis, bah eux, ils ont pas eu besoin de négocier des droits, ils sont juste plugués sur Deezer au travers de l'API, de l'interface de programmation de Deezer. Donc il y a des choses qui avancent de ce côté-là, mais évidemment, l'idée c'est quand même d'arriver à des sortes de licences globales. Je sais que c'est un gros mot, mais des choses qui fasse que voilà, il y a une sorte de guichet unique où tu dises voilà, pour mon application musicale, j'ai envie d'avoir le même catalogue que tout le monde et puis fais tout quoi. Voilà, donc signer là, ça va me coûter tant, OK, très bien. Enfin, simplifier les choses parce que le problème c'est que la seule complexité des démarches qu'il faut entreprendre pour avoir accès au catalogue, c'est d'une longueur, d'une complexité et du coup, d'un coût qui fait que ça ne met pas à portée de toutes les bourses quoi.
Bon, espérons qu'effectivement les choses se précisent à ce niveau-là. Dernière petite news avec quelque chose, encore une fois, d'un peu enthousiasmant pour finir. J'ai découvert aujourd'hui que la Direction Générale des Finances était sur Twitter. C'est incroyable, non? Non, mais en fait, on vit quand même dans un monde formidable, je trouve. Alors, c'est le compte... Pardon ?
On a vu trois papes, c'est la moindre des choses de poursuivre son sens.
Exactement. C'est DGFIP _ officiel qui est présent sur Twitter. C'est la Direction Générale des Finances Publiques. Franchement, moi,
ils
je trouve
quoi
ça... Bah, écoute, pour le moment, ils répondent aux gens qui leur envoient des messages un petit peu amusés.
Que faites-vous sur Twitter?
Alors moi, par exemple, c'est Corben qui l'a signalé. Il disait, et là, je découvre que le Trésor public est sur Twitter, et ça, c'est cool. Et il met un lien vers eux.
Tu peux enfin les suivre.
Exactement. DGFIP dit... merci Corben, on débute, c'est pas évident, mais on fait au mieux. Moi je dis plutôt cool comme initiative. Donc si on a des questions sur notre déclaration d'impôt, vous répondez. Et là ils répondent avec pas mal d'humour. Non, c'est un outil d'info, pas une hotline de résolution de problèmes et de situations perso.
Pauvre
smiley. Hashtag smiley. J'ai une vie. Hashtag j'ai une vie moi aussi.
Des smileys et des hashtags, mon Dieu, mais qui sont-ils
Non mais franchement, c'est pas formidable.
Non, mais au moins ils pourront te donner l'adresse de ton hôtel des impôts le plus proche pour que tu ailles voir. Mais tu sais, pour vous, la France avance. Hein. J'ai reçu aujourd'hui un communiqué de presse qui m'annonçait que l'assurance maladie avait maintenant des applications mobiles.
Oui, j'ai reçu ça la semaine dernière.
Pour avoir ton compte direct de l'assurance maladie sur ton smartphone.
Tout à fait. Amélie.fr. Mais c'est très très bien.
Elle est pas belle,
Mais pour Dieu sait qu'on se plaint, enfin que je me plains en tout cas dans cette émission régulièrement, que
normal,
la France
français.
Soit...
Tu es français, c'est normal.
Non mais en l'occurrence, je me plains que la France n'est pas, ou en tout cas que les instances gouvernementales et les administrations ne sont pas au fait de la chose technologique. Eh ben là, en l'occurrence, je leur rends justice. On a des exemples qui nous prouvent le contraire. Donc je tenais à en parler et à le signaler pour les en féliciter.
Quand ça va bien, il faut le dire aussi.
Exactement, voilà. Et quand c'est terminé, il faut le dire également. Nous arrivons donc à la fin de cette émission qui a été délicieuse, je dirais, grâce à vous deux surtout, chers camarades. Et avant donc de nous quitter, j'aimerais que vous nous disiez, et que vous disiez surtout à nos auditeurs, parce que moi je le sais déjà, où on peut vous retrouver quand vous n'êtes pas en train de m'accompagner dans le rendez-vous tech. En commençant par Cédric, que fais-tu sur Internet et ailleurs en ce moment?
Que fais-tu sur Internet? Mais je ne peux pas tout dire, vieux dégoûtant. Je suis Cédric sur Twitter. Vous pouvez me suivre sur Facebook, mais ça a un peu moins d'intérêt à mon avis. Oh, quoique. Surtout que maintenant qu'il y a Buffer qui te permet de poster partout en même temps, c'est un peu la même chose.
Attends, c'est quoi Buffer?
Buffer, tu vas sur bufferapp.com, tu y connectes tous tes comptes sociaux, même ad.net, pas encore Google+, mais il paraît que ce n'est qu'une question de semaine. Mmh. Et tout à coup, tu vas pouvoir te créer un buffer de posts. Hein. Tous les trucs rigolos que tu as envie de forwarder, etc., plutôt que d'en forwarder 5 à la suite en 5 minutes quand tu lis des trucs le matin, tu vas les mettre dans ton buffer et il va les poster au fil de la journée et de la semaine. Donc tu vas un peu espacer tes posts, parce que c'est plutôt pas mal. Il y a en plus tout un truc derrière pour savoir combien de gens ont lu, combien de gens ont cliqué, combien tout ça. Et puis surtout, tu vas poster en une seule fois sur tous tes réseaux sociaux, avec ou sans lien, avec ou sans image, etc. C'est vachement bien fait.
Bon, mais ça, voilà. il y avait déjà Hootsuite qui permettait de faire plus ou moins
oui,
ça.
Oui, j'ai jamais essayé Hootsuite, mais il paraît qu'Hootsuite fait ça très bien et poste sur Google+, en plus, qui m'énerve assez prodigieusement. Bref.
Voilà. Ah non, pas sur Google+. Bon, bref, vas-y, pardon, continue.
Autant pour moi. Donc Cédric sur Twitter, et puis sinon, sur Facebook, il y a quand même un truc vachement intéressant. C'est la page de plein écran où vous pouvez retrouver les émissions en streaming. C'est énorme. Vous pouvez aussi le regarder à la télévision 13h10 le dimanche, première diffusion, puis c'est multidiffusé toute la semaine. Voilà.
Magnifique, merci Cédric. Mademoiselle Corvisier, qu'en est-il de votre présence internetienne?
Eh bien, moi déjà, avant toute chose, c'est sur gizmodo.fr, donc où j'écris à longueur de semaine avec grand plaisir. Sur Twitter, donc @FloCorvisier, donc appelez-moi Flo, ce sera plus simple. Et aussi sur un podcast hebdomadaire qui s'appelle Chronique de Geek. Voilà.
Qui est disponible où, Chronique de Geek?
Alors sur lepoint.fr et gizmodo.fr.
Magnifique. Merci Flo, puisque maintenant j'ai compris.
Au contraire.
Et on va aussi remercier les auditeurs et les inviter à passer sur nowatch.net pour commenter cet épisode et pour retrouver des liens intéressants vers tout plein d'autres choses. Il y a aussi les nouvelles un petit peu tristounes que vous pourrez lire pour nowatch.net, mais ça vous avez sans doute déjà lu, j'imagine, j'espère.
mais moche. Bon.
Le show must go on et il go on. Il go on d'ailleurs dans 2 semaines avec un nouvel épisode du Rendez-vous Tech dont j'espère que vous serez, que vous l'apprécierez et on vous entendra en tout cas dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à tous et grosses bises. À dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.